grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde dans tous ses états.
Presque toute la planète Web a découvert avec une certaine horreur cette voiture qui a foncé sur une poussette. Une maman est en train de traverser la rue avec sa poussette et il y a une voiture qui l'a percutée. Et c'est assez dur en regardant les images de s'imaginer que c'est un accident parce qu'on l'avait pas vu. Au contraire, ça semble volontaire. On va s'intéresser à l'aspect juridique de la chose qui est au cœur de notre intérêt. Mais avant ça, posons-nous une question que plein de parents avec de jeunes enfants se posent. Qu'est-ce qui devrait nous alimenter? Qu'est-ce qui devrait nous animer? Qu'est-ce qu'on devrait rechercher quand on veut une poussette de qualité, c'est-à-dire essentiellement sécuritaire, que ce soit pour se promener sur la rue ou pour l'embarquer dans la voiture. Alors, pour faire le tour de ça, parlons à Gisèle Wagner, qui est directrice générale chez Charlotte et Charlie, magasin de pour bébés à Québec. Bonjour, Madame Wagner.
Bonjour.
Alors, rapidement, dites-nous, qu'est-ce qu'un parent consciencieux devrait regarder lorsqu'il s'achète une poussette, là?
Mais premièrement, le parent devrait vraiment considérer ses besoins. Donc, pas seulement choisir sa poussette parce qu'il a trouvé jolie sur Instagram ou parce qu'il a vu quelqu'un l'avoir puis que cette personne-là lui a dit que c'était sa poussette préférée. Il va regarder dans quel type de conditions il va l'utiliser. Est-ce qu'il a besoin vraiment d'une poussette qui passe partout ou est-ce qu'il doit privilégier l'aspect compact et léger de la poussette? Fait que ça, c'est vraiment de faire une petite analyse de son mode de vie pour diriger son choix.
Madame Wagner, pouvez-vous juste nous rassurer parce que on a le sentiment que s'il y a quelque chose où la réglementation gouvernementale est présente, c'est notamment dans la sécurité des poussettes. Toutes les poussettes que l'on peut acheter ici sont garanties, sont homologuées à un certain niveau de sécurité.
Oui. Donc, puis en fait, même les critères canadiens sont parmi les plus stricts dans le marché international. Les produits qui se trouvent au Canada sont approuvés par les instances gouvernementales. Donc, ils rencontrent les normes de tests qui sont établies par ces instances-là. Donc, les parents peuvent être l'esprit tranquille. Les produits qu'ils achètent sont sécuritaires.
Une des choses qui a donné un grand soupir de soulagement à la population, c'est que l'enfant qui était dans la poussette, qui a été frappé, s'en sort indemne. Tous ceux qui ont été parents et tous les gens en général ont poussé un grand soupir de soulagement. Il y a, à moi, et vous allez me corriger là-dessus, les poussettes ont une durée de vie au niveau de la conformité de sécurité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
En fait, ce ne sont pas les poussettes qui ont une durée de vie, ce sont les sièges de voiture. Donc, eux ont des durées de vie de certain nombre d'années établies par les compagnies. Puis, cette durée de vie-là est due au fait que ces sièges-là sont exposés à des conditions extrêmes, donc très chaud à très froid dans les voitures, savoir au fil du temps une détérioration des matériaux. Puis, après un certain nombre d'années, le siège réagira peut-être pas comme il devrait réagir pour bien protéger l'enfant. Mais on n'a pas le même corollaire avec les poussettes. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des poussettes qui sont utilisées pendant plusieurs années. Si bien entretenu, il n'y a pas de souci avec ça.
Oui, puis là, on comprend. Puis là, l'erreur que j'ai faite ici, c'est parce que moi, j'avais chez moi la fameuse poussette avec la coquille qu'on sort de la voiture pour cliquer directement sur la poussette. Et j'imagine, puis là, je voudrais vous voir si c'est une bonne recommandation, j'imagine que c'est toujours de bon augure d'attacher l'enfant dans sa coquille, dans sa poussette.
Complètement. Puis en fait, même, on va un petit peu plus loin que ça chez Charlotte et Charlie. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser, lorsque possible, l'enfant, de mettre l'enfant dans sa coquille de voiture le moins longtemps possible hors de la voiture. Je m'explique. Clipper la coquille sur la poussette, c'est un essentiel pour sauver la vie des situations pour les parents. Mais là, ce qu'on parle, on parle pour des longues marches, de mettre l'enfant dans un siège qui se couche à 180 degrés ou encore dans un accessoire comme un landau va lui donner une position beaucoup plus sécuritaire et bénéfique pour sa santé.
Parfait. Gisèle Wagner, directrice générale de Charlotte et Charlie. C'est un magasin de trucs pour bébés à Québec. Merci beaucoup de nous avoir aidé à se dire quand on doit avoir nos enfants dans la voiture ou sur la voie publique, comment est-ce qu'on devrait les protéger au maximum? Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir. Au revoir.
Maintenant, intéressons-nous à l'aspect, parce que effectivement, même si cet enfant-là avait été sans protection aucune, c'est pas, il faut pas armer ou blinder les bébés davantage. Il faut se poser les questions. Qui est cette personne? qui est un criminel, qui a commis un acte grave de s'en prendre à une autre personne avec sa voiture pour parler de ses enjeux au niveau légal. Allons parler à Walid Hijazi, qui est un avocat criminaliste. Bonjour, M. Hijazi.
Oui, bonjour.
Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Parlez-nous d'abord de qu'est-ce qu'un délit de fuite, et puis après ça, on s'intéressera à une agression armée, parce que la voiture peut être considérée comme une arme dans un cas comme celui-là.
Oui, mais là, pour le délit de fuite en tant que tel, ou ce qu'on appelle en anglais communément un hit and run, c'est du moment qu'on heurte un autre véhicule ou un objet ou une personne ou un animal, que ce soit intentionnellement ou même si c'est un accident, on a l'obligation de s'immobiliser. On peut pas fuir les lieux, là. C'est-à-dire, on doit s'arrêter, on doit sortir du véhicule, on doit porter secours si quelqu'un a besoin d'aide, et on doit donner, mettons qu'on frappe un véhicule, on doit donner ses informations à l'autre conducteur, alors son nom, son numéro de téléphone, son numéro de plaque d'immatriculation. Alors, il y a des renseignements qu'on doit communiquer.
Et là, je veux juste que vous l'expliquiez, là, c'est pas ici que de bien se comporter en société, c'est une obligation légale.
Exactement, à deux niveaux, c'est-à-dire c'est une obligation formelle du Code de la sécurité routière. Alors, en tant que conducteur titulaire d'un permis, on a le droit de conduire, mais on a des obligations qui viennent avec le fait de pouvoir conduire, notamment, et c'est le Code de la sécurité routière qui prévoit qu'on a des obligations. Là, on doit s'immobiliser et on doit porter secours et on doit donner des informations. Ça peut même atteindre un seuil criminel, c'est-à-dire si on fuit les lieux, si on ne respecte pas ces obligations, on s'expose à un constat d'infraction épicé, amende, point d'inaptitude, mais si ça atteint un certain seuil, là, ça peut même aller jusqu'à une accusation au criminel. Alors, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, et j'insiste, même si c'est le fait d'un accident, ça arrive des accidents. Et c'est ce qui est criminalisé, c'est le fait de s'enfuir, ce n'est pas d'avoir causé l'accident. Alors, bref, si on est...
Bref, s'il arrive quelque chose, il est de notre devoir, sinon de notre obligation, de s'arrêter puis de faire face aux conséquences. Sinon, c'est sûr que ce sera pire. Maintenant, parlons de... Et on voit ça des fois dans les cas de rage au volant. Dans le vidéo, c'est assez dur de s'imaginer que c'est juste un accident. Mais sans présumer du reste, il y a quelque chose dans le code criminel qu'on pourrait appeler l'agression, mais il y a un volet particulier qui est l'agression armée. Normalement, on imagine que c'est avec un couteau ou avec un fusil. Mais la voiture peut être considérée comme une arme dans certaines situations. Expliquez-nous ça.
Effectivement, c'est exactement comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire c'est un voie de fait armé, l'arme. Et là, je parle pas de l'incident qui nous intéresse aujourd'hui, mais de manière théorique en droit, un véhicule peut servir d'arme et ça se voit, comme vous l'avez évoqué, dans des situations malheureusement là, de rage au volant. Et là, on rentre dans un autre niveau et on risque de s'exposer à de l'incarcération si c'est la situation. Alors, au-delà d'un délit de fuite, se servir intentionnellement de son véhicule pour blesser quelqu'un, c'est une agression armée, ça peut même être une tentative de meurtre. Je veux dire, on rentre dans une dimension très, très grave.
Est-ce qu'il y a une distinction en droit à savoir, parce que là, on sait que le bébé n'a pas été blessé. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait une distinction en droit, agression armée, mais finalement, il n'y a pas eu de blessé, donc ce serait moins grave? C'est vraiment une conversation juridique, là. Comment est-ce que, juridiquement, on réfléchit cette chose-là?
Alors, il y a l'acte et il y a le fait d'une blessure ou non, ou peut-être même la mort. Ça va influencer ce qu'on appelle la peine. Alors, la pénalité, là, est-ce que ça va être une amende, est-ce que ça va être de la prison? S'il y a blessé ou même un mort, évidemment, la gravité objective de la situation devient beaucoup plus complexe et grave. Mais en amont, il faut toujours partir du principe que la personne, elle est présumée innocente, que la poursuite, l'État qui poursuit un fardeau de la preuve, hors de tout doute raisonnable, et là, ça va différer de selon le crime. Si on accuse d'un voie de fait armé, il faut prouver l'intention, c'est-à-dire qu'on a voulu heurter et qu'on s'est servi de la voiture comme arme. En matière de délit de fuite, alors là, c'est autre chose, c'est qu'on avait l'obligation de rester, on ne l'a pas fait. Il y a une intention qui est présumée. Alors, pour n'importe quel crime, il y a l'acte, il y a l'intention. S'il y a un délit de fuite, il y a une présomption que la personne qui sciemment est impliquée dans un accident, il n'y a pas d'ambiguïté, là, je suis impliqué dans un accident. Si je fuis les lieux alors que j'avais l'obligation de rester, il y a une présomption dans la loi que je fuis dans le but de fuir à toute responsabilité, là.
Donc, alors, on voit bien là, que ce sont des cas, que ce soit en termes de délit de fuite ou d'agression armée ou de voie de fait armée, que ce sont des choses infiniment grave. Walid Ijazi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je retiens de notre entretien que conduire est un privilège qui vient avec d'énormes responsabilités. Et peut-être que au-delà qu'on cherche bien sûr le malfrat, on invite les gens à contacter Infocrime, on prend conscience des responsabilités très lourdes que l'on a comme conducteur, et peut-être que ça aidera à sensibiliser tout le monde sur est-ce que mon comportement est infiniment plus sécuritaire que celui que j'ai jusqu'à hier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir.
Je vous en prie.
Au revoir.